des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Il n'y a pas de vision d'ensemble.
Marc-André Leclerc.
On fait ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le faire?
C'est pas clair.
Elle sait le faire.
Puis il proposera ça aux Québécois, puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème là-dessus.
Ça veut dire ici que la meilleure solution...
Oui. Faire un débat.
Tout le monde sort un peu gagnant de ça.
La rencontre, Lefèvre, Leclerc.
Salut à vous deux.
Bonjour.
Allô.
Bon, Marc-André, je vais t'avouer que je me suis un peu inquiétée pour toi en fin de semaine, te sachant résident de l'Outaouais. Je pensais à Nicole, je pensais à toi, puis j'espérais que vous n'ayez pas trop de dommages.
Ben, tout a bien été dans les circonstances, mais tu sais, j'ai 38 ans, là, c'est la première fois que je voyais une tempête comme ça, sérieusement. Là. Pour dîner samedi, j'avais plein de gens à la maison. De la parenté, c'est le long week-end, on était dans la piscine, et là, vraiment, là, on a vu là, un changement, là. 2h30, 3h, ça a vraiment changé, et là, il faisait plus 33, on est tombé à plus 18, là. Alors, on a quasiment perdu la moitié en termes de degrés, en termes de température, puis je pense qu'en 15 minutes, il a dû tomber 15 mm depuis, là. Puis, c'est sans parler du vent, les arbres, en tout cas, c'était vraiment, là, une grosse tempête, et nous, on a perdu là, tout de suite le courant, 15h51, si ma mémoire est bonne. Et on l'a perdu pour 12 heures. Fait que c'est revenu dans la nuit. Mais là, c'est le fun, j'étais content. Mais là, qu'est-ce qui arrive la nuit, tu penses? Là, ça bibe de partout, les lumières sont allumées. Fait que là, à 4 heures, je me lève, je dois faire le tour, tout est beau. Mais là, dans la journée de samedi, on a reperdu le courant à nouveau de 2h à 7h. Moi, j'étais quand même assez chanceux, j'étais un des premiers là, à 4h samedi matin à revoir le courant. Ouais. Mais il y en a là, qui s'est allé, j'ai des membres de la famille là, qui s'est allé à lundi matin 9h. Là. Fait qu'entre samedi 4h et lundi matin 9h, tu vois comment t'es dépendant. Mais là, le branle-bas de combat aussi, c'est que moi, là, mon kit là, de panne d'électricité, là, j'ai jamais eu ça.
Oui, il était rudimentaire.
Ouais, c'est rudimentaire. Fait que là, le soir, là, tu sais, là, finalement, le party arrête un peu, tout le monde s'en va. Fait que là, ma blonde, on a dit, on a-tu des lumières? Ben là, j'ai dit, j'ai une lumière quand je fais le bilan de la maison, là, tu sais, quand mes spots pour faire de la télé. Fait que là, on s'est servi de ça. Mais là, le samedi après-midi, là, ça repart l'électricité. Fait que là, je m'en vais dans une quincaillerie. Fait que là, tu sais, ben, il n'y avait plus rien, tu sais. Mais là, le petit gars, tu sais, petit commis, il dit, ben, monsieur, vous auriez dû venir avant la tempête. Ben oui, je le sais. J'aurais dû venir.
Non, mais attends, je trouve ça intéressant. Les alertes qu'on a eues, tempête, tout ça, est-ce que tu as pris ça au sérieux, toi?
Ben, on le voyait avec, tu sais, parce que j'étais à l'extérieur, puis je me suis promené un peu parce que ma fille avait une fête d'amis. Tu sais, je veux dire, c'est parce qu'avec la pandémie, on avait quasiment des alertes à tous les jours, là.
Fait, ben, c'est ça.
Mais là, tu sais, on les prenait, non, je prenais pas tant au sérieux, mais tu sais, quand on a vu là, que le ciel a changé, on a tout ramassé, tout placé comme il faut, puis on est rentré. Là. Mais là, le dimanche, là, je repère l'électricité, fait, là, trouve de la glace pour mettre dans un congélateur, dans un frigidaire. Là, cherche des piles, cherche des lampes de poche. Il restait plus rien. Là, là les fils d'attente, parce que tout le monde, là, il y a des stations-service qui marchent pas, fait là, tout le monde est dans une station-service qui fonctionnait. Puis là, moi, j'avais des gens dans mon voisinage, ben, ils commençaient à stresser parce qu'ils ont un véhicule électrique. Fait que là, c'était un fin de semaine bizarre, disons. C'était comme le premier fin de semaine, long week-end, d'été, qui fait beau, sans masque, sans pandémie, trop, ben, dans la nature, nous a gâché ça. Ben,
oui, faisais-tu partie des glorieuses personnes qui ont eu la fausse bonne idée de rentrer leur barbecue en dedans pour faire de la bouffe? Parce que
tu voyais que les gens faisaient
preuve de témérité dans une certaine mesure.
Non, exact. Non, faut pas faire ça. Non, j'ai pas fait ça. On s'est arrangé. Des Monday sandwich, ça fait toujours la job. Puis moi, j'ai perdu 12 heures, tu sais, au début.
C'est pas trois jours.
À sauver ça. Mais ceux que, Il y en a encore aujourd'hui qui l'ont pas, la Gatineau, là. Fait que c'est encore 5 000, je pense, j'ai vu tout à l'heure, là. C'est encore beaucoup de monde.
Oui, ben, 131 000 au Québec en tout, là, parce qu'on le sait, ça a touché, oui, l'Outaouais, Mélanaudière, dans les Laurentides aussi. Ça nous montre à quel point on est dépendant de l'électricité aussi, surtout dans les grandes villes aussi, hein. Parce qu'en campagne, beaucoup de personnes ont une génératrice, mais encore une fois, au bout d'un certain temps, t'as besoin d'essence, t'as besoin de toutes sortes de choses. Nicole disait tantôt, nous, en campagne, les pompes arrêtent de marcher, t'as des fosses septiques, t'as des puits, donc t'es vraiment très mal à manger. Puis Hydro-Québec, est-ce que la réponse a été satisfaisante selon toi?
Ben, tu sais, je veux dire, j'ai jamais autant consulté le site d'Hydro-Québec là, pour voir l'info panne. Là. J'ai refresh, réactualisé. Ben, tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'à un moment donné, il donnait comme des détails. T'es en analyse de travaux, puis il y a comme 4-5 questions d'étapes. Mais à un moment donné, il donnait plus d'idées, juste panne majeure, t'attendais. Ben moi, c'est sûr, j'ai lu quand même 12 heures plus tard. Là. Fait que je peux pas me plaindre. Je l'ai reperdu 5-6 heures, là, mais tu sais, j'ai pas comme.
Il y a pire que toi.
J'ai perdu de bouffe. Il y avait pire que moi. On a pu recharger les téléphones, c'est les moyens de communication qui nous restent. Mais bon, tu sais, je comprends que c'est tellement un gros impact. Tu peux pas appeler commencer à OK, toi qui restes sur telle rue, tel numéro, toi, ça va te brancher à 16h42, puis toi sur l'autre. En tout cas, je comprends.
Je pense qu'il y a des gens, il y a beaucoup de personnes qui vont aller s'acheter des génératrices, des power packs.
J'en suis un. Oui,
t'as fait des comptes. Toi, Elsie, t'étais à Montréal, là?
Oui, moi, j'étais à Montréal, mais ça m'interpellait tantôt quand tu disais l'alerte qu'on a reçue sur nos téléphones.
Oui, c'était épeurant.
C'est épeurant, c'est ça, parce qu'on n'en reçoit pas souvent des alertes comme celle-là. Donc, tu te dis, ben, écoute, s'ils prennent le soin de nous en envoyer une, oui. Puis la manière que c'était rédigé, là, c'était trouver l'abri le plus près et aller vous cacher.
Ah, moi, j'ai des amis qui ont été dans le sol de leur maison, notamment dans les Laurentides et Lanaudière. Non, mais pour vrai, avec les enfants, il y a des arbres qui sont tombés sans maison, là.
Ben, c'est ça, exactement. Puis, comme tu dis, moi, j'étais à Montréal. Puis on était en déplacement au moment même où on a reçu l'alerte.
Ouf, oui.
Puis je me suis demandé si c'était une bonne idée. Là. J'étais comme, mon chum, roule vite. Puis le ciel était correct. Finalement, ça a viré en petite brune. On était chanceux. On a attendu la tempête toute la soirée. On l'a pas eu. Mais je regardais le lendemain des vidéos sur TikTok puis dans les nouvelles. Puis mon Dieu, il y en a que ça a frappé vraiment fort. Puis c'est là que tu te rends compte. On parle des changements climatiques, mais ça devient un peu réel. Il y a des feux de forêt, il y a des inondations.
Des tornades au Québec.
Ben, des tornades. J'ai peut-être le porte-parole d'Hydro-Québec qui disait, bon, la crue des eaux dans le coin de Québec et ailleurs. Donc, il y a toutes sortes de phénomènes qui se passent. On sait pas trop si c'est vraiment les changements climatiques, mais je pense qu'on peut plus vraiment se dire que c'est pas ça.
Ben, moi, j'étais au Saguenay, à Lens-Saint-Jean. Il y a eu l'alerte pour les tornades le lendemain, donc le dimanche. Là, c'est arrivé par après. Finalement, il s'est rien passé. Mais tu vois qu'au Saguenay, il y a un traumatisme là, par rapport au déluge du Saguenay, à tout ce qui s'est passé. Les gens étaient vraiment sur le qui-vive. Il y avait un stress. Pour vrai, là, moi, je l'ai senti, puis les gens parlaient du déluge, disaient, t'en rappelles-tu? Surtout qu'avec la crue des eaux, là, toutes les rivières sont super hautes. À la Tuque, il y a des routes qui se sont affaissées et tout ça. Donc, tu sais, tu vois que les gens commencent à, justement, réaliser, Elsie, si t'as assez raison là-dessus, là, qu'il y a des impacts réels sur nos vies, puis qu'il va falloir peut-être songer à faire comme Marc-André, puis s'équiper en conséquence. Moi, je trouve que dans les grandes villes, on est particulièrement vulnérables. C'est ce que je disais, là, tu sais, à Montréal, c'est arrivé. On l'a vu un peu pendant la pandémie, là. Tu sais, quand on se garochait partout à l'épicerie pour acheter du riz puis tout ça. Tu sais, à Montréal, t'as des ponts. Moi, j'ai peut-être écouté trop de films de zombies, là. Mais je me dis, qu'est-ce que je ferais? Où j'irais? On stocke pas ben à Montréal. Tu sais, ma mère, elle a deux frigidaires, elle. C'est une Saguenayenne pure beurre, là. Elle, son congélateur est toujours plein. Elle a du canage. Moi, je vais à l'épicerie tous les jours. Je veux dire, je vais pas... J'ai pas grand chose en stock tant que ça. Donc, tu sais, je sais pas si on va revoir notre façon. Je suis pas en train de dire que je vais devenir survivaliste. C'est pas ça que je veux dire. Mais ça nous fait réaliser qu'on est bien peu de choses. Ouais. Tu sais, honnêtement.
C'est
ça. Voilà.
Ben, tout le monde a une dépendance à l'électricité, là. C'est clairement, là. On a très peu de gens. Tu sais, chez mon père, par exemple, au lac, tu sais, il y a un poêle à bois. Fait que si t'as pas l'électricité, tu peux te chauffer. Mais tu sais, moi, dans ma maison à Gatineau, j'ai pas un poêle à bois. Fait que c'est sûr, ça nous ramène peut-être à repenser un peu comme on vivait à l'époque là, d'Émilie Bordelot, là, des filles de Caleb. Il y a quand même certains trucs. Là, moi, là, je vais attendre un peu parce que c'est la folie, là, mais je vais m'équiper un peu. J'avais jamais vu que ça. C'est 12 heures sans courant. J'ai jamais vu
avec
ça
des enfants aussi, là. Faut que tu t'occupes, qu'ils mangent, qu'ils dorment, qu'il aille chaud. Là, c'est arrivé en plein été, mais pendant le verglas, ça avait pas été drôle non plus. Donc, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont faire des petites commandes dans les prochains jours.
Oui, c'est clair.
Mais juste en, oui. en,
en terminant là-dessus, quand même, faut quand même se rassurer puis se dire que, tu sais, parce que c'est sûr qu'on dit, il y a les gens qui sont dans des contrées éloignées, mais en ville, comme tu dis, c'est sûr qu'on est moins habitué à ça.
C'est ça.
Mais tu sais, il existe des plans d'urgence. Donc, si il arrive quelque chose, en plus, c'est l'été, mais même l'hiver, tu sais, il y a des mesures d'urgence qui vont être mises en place pour que la population puisse avoir des soins. Fait que, tu sais, faut pas non plus.
Mais tu sais, quand tu vas sur le site du gouvernement canadien, moi, j'ai fait l'exercice à un moment donné à Montréal, ça fait quelques années. Oui, là, ils disent tout ce qu'il faut que t'ailles en cas d'urgence dans toutes les demeures. T'es comme, hey, calmez-vous, la gang. C'est genre des caisses d'affaires, de l'antiseptique. T'sais, donc, je pense que le gouvernement canadien est pas mal plus énervé que nous autres en termes de prévention. Mais bon, voilà. On va souhaiter bonne chance aux résidences et aux résidents qui ont été affectés par ces intempéries-là, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de dommages. J'entendais François Lambert ce matin qui parlait non seulement des pertes qu'il y a eu, mais de l'incendie de sa ferme qui serait probablement criminel. Je me disais, mon Dieu, tu sais, quelle fin de semaine épouvantable. Il a dû passer. Changement de sujet, adoption de la loi 96, Elsie, puis on va parler aussi de Marie Montpetit là, dans la foulée de tout ça.
Ben oui, donc on arrive enfin à l'adoption finale. Donc, la CAQ, c'est sûr qu'elle est contente parce que ça ne sera pas adopté sous bâillon. Donc, on va arriver là, à la fin de l'étude. Mm. C'est un gros morceau pour la Coalition Avenir Québec. On le sait, ils se targuent d'être nationalistes, d'être à la défense du français et tout ça. Puis bon, le Parti québécois annonce ses couleurs ce matin, donc on va voter contre le projet de loi 96, comme les libéraux, mais évidemment pour des raisons diamétralement opposées. Mm. Donc, c'est ça. Principalement, c'est le cégep français. Donc, on a parlé beaucoup du cégep français. Ça a été un des éléments là, qui a été controversé pendant la dernière année. À un moment donné, disons, si on regarde le balancier, là, ça a failli. Là, la CAQ était sur le point. Les discussions ont eu lieu à nouveau à la CAQ pour savoir si on allait faire. Finalement, le premier ministre a décidé de rester et de dire non. Mais, les différents experts qui sont venus en commission parlementaire, la pression a monté juste assez pour que, on envisage peut-être. Donc, ça sera peut-être partie remise, un peu comme, c'était la démonstration du Parti québécois ce matin. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'avant la loi 101, il y avait eu une loi pour laquelle les péquistes avaient voté contre parce que ça allait pas assez loin. Donc, que les résultats pour protéger le français n'allaient pas être au rendez-vous. Et donc, c'est un peu ça, l'argumentaire du Parti québécois aujourd'hui, c'est de dire, ben non, la CAQ va pas assez loin, puis on sera pas complice de ça, puis on va le dire haut et fort. Moi, c'est une stratégie que je respecte, que je comprends aussi. Et maintenant, la CAQ, ben, tu sais, est entre les deux, entre les libéraux qui nous disent que les Anglais sont persécutés, puis qu'ils vont peut-être, que leurs droits sont menacés, puis que je sais pas.
C'est presque un génocide culturel.
Ben, c'est ça, là. J'ose pas répéter leurs mots.
Ben, je les ai répétés parce que je veux que les gens comprennent à quel point c'est un petit peu exagéré.
Ben, c'est ça. Mais donc, la CAQ se retrouve au milieu. Ouais.
Vas-y, Marc-André.
Mais la seule chose avec la stratégie du PQ, c'est vrai qu'ils peuvent la défendre. Sauf que la façon qu'ils l'ont fait ce matin, c'est sûr que pour la CAQ, ça leur donne un outil quand même. Ils ont voté contre la loi 96. C'est en politique, quand tu t'expliques, c'est là que tu perds. Moi, si j'avais eu les conseillers, j'aurais dit, ben, dites-toi 96, mais dites que c'est pas assez. C'est une étape en avant. Mm. Mais là, pour M. Legault, là, on pense déjà au face-à-face, à TVA, puis là, ça va parler de la langue française, tout ça. Ben, c'est sûr que c'est facile pour M. Legault de dire, ben, vous avez voté. En mai passé, vous avez voté contre 96. Là, puis là monsieur, simplement, on dit, ouais, mais là, on a voté contre parce qu'on pensait que ça allait pas assez loin. Quand tu t'expliques, là, moi, il y a là-dessus que je trouve qu'ils sont un petit peu vulnérables, le PQ.
Bon, Marie, mon petit qui a annoncé qu'elle se retirait pour le moment de la vie politique, elle va voter pour la loi 96, elle-ci, même si elle trouve que c'est pas parfait.
Exactement. Donc, Marie Montpetit, dans le fond, reste avec la position libérale pratiquement au moment où elle était expulsée du parti. Donc, il faut se rappeler que les libéraux, là, initialement, avaient annoncé qu'ils n'allaient pas voter en faveur, mais en tout cas, du moins, qu'ils étaient favorables au principe. Donc, Marie Montpetit, quelle histoire, l'histoire de Marie Montpetit tout de même.
On l'accusait d'être toxique, de faire de l'abus de pouvoir, d'être une poffine, finalement.
Exactement, mais on n'aura jamais su le fond des choses sur cette question-là.
Mais attends, elle n'a pas réclamé une enquête, puis ça n'aura pas lieu, c'est quoi?
Ben c'est ça, donc il y aurait eu une plainte ou pas, c'est pas clair, au bureau de l'Assemblée nationale, mais ces questions-là sont délibérées évidemment à huis clos, donc mais la chef, Dominique Anglade, l'a expulsée avant même d'avoir reparlé à son ancienne collègue, donc députée. Donc, c'est sûr qu'elle a eu droit à un procès, un procès un peu sur la place publique, mais bref, sans pouvoir même se... Donc, elle a pas eu ce procès-là, donc même pas dans les instances internes du parti, parce qu'habituellement, un parti va quand même se doter d'instances pour gérer ces cas-là, mais ça a été une fin de non-recevoir pour la chef. C'est sa prérogative, ceci dit, à la chef Anglade de pouvoir expulser des collègues, mais bref, elle part un peu la tête haute, pas voulu faire trop de vagues en quittant. Mais bref, pour elle, c'est sûr que c'est un désaveu, puis c'est surtout au milieu de sa carrière comme ça, elle était promue à quand même une belle carrière.
Madame, mais ferme pas la porte à un retour.
Ouais, c'est ça.
Mais elle sera avec Mario tantôt, Marie Montpetit, donc il aura l'occasion de la questionner là-dessus. Et il y a un dossier vraiment très, très intéressant de Radio-Canada sur la validation des candidatures en politique, Marc-André.
Oui, effectivement, c'est la saison des idées, c'est la saison des... C'est la saison des plateformes également pour les partis politiques, la saison des candidatures. Hein. Il y avait un article intéressant là, sur le site de Radio-Canada sur justement c'est comment les partis politiques font pour
évaluer, sélectionner des gens puis voir le risque qu'ils représentent pour le parti.
Regardez s'ils ont des squelettes dans le placard.
Oui, là. Mais tout le monde en a, non?
Non,
mais certains pires que d'autres.
Non, mais il faut le dire. Mais moi, j'ai travaillé sur l'élection fédérale de 2011 et 2015 au fédéral. J'étais conservateur. J'ai travaillé là-dessus. Là. Oui. 78 candidats. C'est, moi, là, ça me stressait tout le temps. C'est parce que même si tu prends des bonnes personnes, même si tu fais répondre des questionnaires, même si tu fais des entrevues.
OK, attends, Marc-André, là. Attends, wow. Moi, je veux avoir du concret, là. Dans un questionnaire, mettons, tu demandes quoi?
Ouais, bon, mais questionnaire, là, tu m'as les affaires, le nom, l'âge, tout ça, qu'est-ce que tu as fait, après ça, avez-vous des problèmes avec certaines politiques du parti, mais il y a tout le temps là, une section sur tout ce qui est judiciaire, un casier, quelque chose
que tu dis
vous fait faillite. Mais là, les gens, ils te répondent, là, OK? Ils te répondent oui, non. Fait que toi, tu analyses ça. Puis également, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on demandait un certificat de bonne conduite. Généralement, les gens s'adressent à la SQ ou dans un corps de police municipale, ils disent, bon, mais Marc-André Leclerc, moi, j'aimerais savoir un certificat de bonne conduite. Fait que là, les forces policières rentrent dans leur système puis ils disent, ben, Marc-André Leclerc, il n'y a pas de casier judiciaire à son actif.
Ouais, mais si ça couvre rien, ça, Marc-André, si j'ai dit des affaires sur les médias sociaux épouvantables.
T'as les médias sociaux, mais si tu dis, t'as fait une demande de pardon.
Okay.
Ou si un procès ou une accusation est tombée et laissée de côté pour différentes raisons, mais qu'est-ce que tu fais à partir de ce moment-là? Et c'est là que moi, il y a des gens qui m'avaient marqué non. Là, j'ai le certificat, mais là, un moment donné, on s'est rendu compte que ces gens-là avaient été accusés de possession, de grande quantité de drogue, par exemple.
Et ouais.
Ben là, j'ai fait toutes les validations imaginables. Là. Puis ça, c'est sans compter toutes les déclarations sur le web. Là. C'est un exercice où les partis politiques se sont vraiment raffinés, mais vraiment qui est tout le temps stressant. Là. Moi, ça me stresse.
Oui, mais tu sais, OK, mettons que moi, je vais me lancer en politique, Marc-André, puis que je dis, ben oui, moi, là, j'ai déjà eu des problèmes de drogue, j'ai déjà fait des mauvais coups quand j'étais jeune, voici ce que j'ai fait. Si le candidat est honnête, est-ce que ça passe?
Oui, si t'es capable de travailler avec lui. Exemple, moi, il y a des candidats qui m'arrivaient, bon, j'ai déjà pété une balle.
Oui.
Il y a 25 ans. Ben, il y a une façon de le retourner, puis t'es mieux, toi, quand tu l'annonces, de le dire, tu sais.
Ouais.
De dire, ben, depuis 20 ans, je travaille avec telle organisation, justement, pour la prévention, ta. Mm. Oui, ça se travaille. Tu peux tourner positivement si c'est toi qui le sors, mais pas que c'est comme un journaliste qui l'apprend, puis là, ça te fait.
Oui, plus ça a été caché. C'est ça le problème.
Ouais, en gestion de cas comme ceux-là ou de communication, ce qui va arriver, c'est que c'est souvent le parti qui va le couler lui-même, puis donc, il va avoir une entrevue de fond qui va être faite avec un journaliste, puis là, ben, la personne va avoir l'occasion de tout expliquer son histoire, puis de ressortir effectivement les éléments plus positifs qu'on peut en ressortir. Mais, tu sais, comme par exemple, là, le cas de la candidate de la CAQ, là, dans Marc-Victorin, qui avait parlé contre
Charlie Dorisman.
Ben, c'est ça. Donc, ça, c'est genre de petites déclarations. Cette fois-ci, c'était tellement gros que, bon, la CAQ le savait. Mais c'est genre de déclarations qui, en campagne, vient défaire ton plan de match. Tu sais. Donc, qu'est-ce que vous répondez? Fait que ça, c'est rien de grave, mais c'est le genre de choses qu'il faut savoir.
Ouais.
Mélanie Joly avait eu une candidate, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais dans sa première campagne à la Ville de Montréal, c'était Bibiane Bovet. Donc, elle, c'était une ex-escorte. Donc, déjà là, elle avait déjà un parcours assez particulier qui était bon repenti. Finalement, on avait appris au milieu de la campagne qu'elle avait invité des gens d'affaires à verser 150 000 euros pour créer une nouvelle monnaie. Ouf. Puis donc là, Mélanie Joly s'était retrouvée à travers ça. Donc, tu sais, c'est le genre de scandale au milieu d'une campagne, que ce soit grave ou pas, criminel ou pas. C'est souvent des questions d'éthique aussi qui font en sorte que tu es tout si bien de tout savoir comme ça. Ben, tu peux avoir l'air comme préparé.
J'ai une question par rapport au fait qu'on est au Québec, par rapport peut-être à d'autres situations géographiques. Est-ce qu'on est plus sensible? Par exemple, je regarde ce qui se passe du côté des États-Unis pour les politiciens. T'sais, aux États-Unis, on est une société beaucoup plus puritaine. Donc, des politiciens qui vont tromper leurs femmes, qui vont se faire pogner dans des trucs comme ça, ça a des réelles répercussions. Est-ce qu'au Québec, on est plus sensible sur certains aspects ou on est plus permissif en général? Marc-André, tu dirais quoi?
Moi, je dirais qu'au Québec, on est la rédemption est possible. Ouais.
Parce que la vie privée des politiciens, ça nous intéresse pas tant que ça. Je me trompe?
Non, mais quand même. C'est sûr que non, mais tu sais, regardez le cas d'André Boisclair.
Mais là, ça, c'est
de la cocaïne.
Oui.
Bon, ben c'est ça. T'sais, donc oui, on accepte que les gens... bon, mais dans le cas d'André Boisclair, on avait dit c'est une erreur de jeunesse. Mmh. Mais l'enjeu, c'est que c'est sorti. Donc, tu sais, ce que Marc-André disait tout à l'heure, d'être capable d'avoir le contrôle sur le message, donc que le parti puisse, créer l'histoire derrière une situation qui est comme délicate, ça fait toute la différence. Et donc, oui, je pense que la rédemption est possible, mais ça dépend toujours
Ben, la rédemption, Ben, quand je me lancerai en politique, je ferai un grand point de presse en direct du confessionnal d'une église.
C'est ça, exactement.
Oui, un bon ménage donc,
Ah, pas tant que ça. Non, je pense
pas. Non, pas tant que ça. Okay.
Non, pas vraiment. J'ai pas eu de temps de déclarations incendiaires que ça. Okay. Mais après ça, quand tu revisites les médias sociaux sur des dizaines d'années, tu peux toujours tourner des affaires. Tu sais, puis dire, elle a voulu dire ça et tout ça. Donc, tu sais, à un moment donné, je pense qu'il faut s'assumer aussi. Puis quand on s'assume, les gens ont moins tendance à juger. Mais c'est une discussion vraiment super intéressante. Oui, vas-y.
Moi, il y a quelques années, j'avais fait le ménage de mon Twitter. Donc, j'avais décidé de tout effacer mes Twitter, juste parce que, bon, tu sais, je me disais, on repassait à neuf, puis j'avais eu des appels de journalistes, OK, tu te lances en politique bientôt, t'as tout effacé, donc tu n'as pas laissé de trace. Non, c'est juste comme je fais le ménage, là. Ménage de printemps. Mais les déclarations passées, c'est sûr que, tu sais, si les gens veulent se lancer en politique, ben, moi, je recommanderais effectivement un grand ménage des photos et tout ce qui traîne, même si on peut retrouver beaucoup de choses.
Éric Duhem le fait, je pense.
Ben, c'est ça. C'est
mais on a beaucoup de captures d'écran.
C'est
OK. Bye-bye.
À demain.